parole maintenant à Olivier de la Doucette, docteur Olivier de la Doucette. Donc, on a vu la recherche et maintenant, avec vous, on va s'attacher un petit peu à la pratique avec un focus sur les nouveaux médicaments. Ils ont été largement médiatisés ces dernières années. Quelle est leur efficacité? À quels patients sont-ils destinés? Et que nous réserve la recherche dans l'avenir?
Oui, merci Brigitte. Tout d'abord, je tiens à remercier et féliciter le professeur Nicolas parce que qui se comprend bien s'énonce clairement. Je peux vous dire que la génétique, c'est vraiment compliqué. Donc, si vous avez compris, c'est très bon signe. Hein, c'est très bon signe. Alors, là, je vais vous... En fait, ça va être assez complémentaire. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que on vous parle de choses qui sont relativement complexes. Et l'idée, c'est qu'en sortant de cette pièce, vous ayez quand même un peu compris certaines choses. Et donc, ce que je vais vous dire va venir un peu en complément de ce qui vient d'être énoncé. Mais avant toute chose, je voudrais que vous compreniez bien de quoi il est question avec la maladie d'Alzheimer. Ce que nous savons maintenant depuis quelques années, c'est que c'est une pathologie qui va évoluer sans signes cliniques pendant de très nombreuses années. 10, 15, peut-être même 20 ans, on est porteur d'une maladie qui se développe à bas bruit, voire sans bruit du tout, parce que vous avez une accumulation de protéines pathologiques dans le cerveau qui se fait très très progressivement. Et comme notre cerveau est un organe absolument prodigieux qui est très redondant, c'est-à-dire qu'on a énormément de circuits qui existent en double, en triple, en quadruple, quand il y a un circuit qui est défectueux parce qu'il y a cette accumulation anormale de protéines, un autre va prendre le relais. Donc notre cerveau va compenser pendant très longtemps. Et puis à un moment donné, la densité de lésions, la densité de protéines anormales, donc bêta-amyloïdes et tau, est telle qu'à ce moment-là, le cerveau baisse un peu les bras et on voit apparaître les premiers symptômes, qui sont des symptômes, au fond, qui peuvent même, au début, être confondus avec un vieillissement normal, et puis ensuite, ils deviennent de plus en plus massifs, et là, on rentre vraiment dans une maladie d'Alzheimer. Mais donc on a une phase dite préclinique qui dure très longtemps, ensuite une phase dite prodromale où vous avez des signaux faibles qui s'installent et qui interrogent, et après vous avez vraiment la maladie d'Alzheimer qui apparaît. Quand la maladie d'Alzheimer apparaît, vous avez certaines structures du cerveau comme par exemple les hippocampes qu'on va toujours aller chercher quand on fait des images IRM parce que ce sont vraiment les centres de la mémoire et notamment de la mémoire à court terme. Eh bien, dans les hippocampes d'une personne qui commence à vraiment avoir une maladie d'Alzheimer symptomatique, la moitié des neurones sont morts. D'accord ? Donc ça vous parle, vous comprenez ? On voit bien, le cerveau répare pendant très longtemps, il compense comme il peut, puis ensuite, c'est plus possible, il y a trop de cellules endommagées, il y a trop de protéines déposées dans le cortex cérébral. Ce qui permet de prolonger très très longtemps cette durée préclinique, ce sont justement les facteurs protecteurs qu'on a émis tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la santé du cerveau. Un cerveau en bonne santé va pouvoir compenser beaucoup plus facilement qu'un cerveau en mauvaise santé. Un cerveau en mauvaise santé, c'est un cerveau qui doit lutter contre l'hypertension artérielle, contre l'hypercholestérolémie, contre le stress, la dépression, etc. Tous ces facteurs, on les connaît assez bien. C'est la raison pour laquelle, Madame tout à l'heure évoquait cette question, voilà, est-ce qu'il y a des facteurs, des événements de vie qui peuvent provoquer Alzheimer? La réponse a été donnée, non, la maladie était sous-jacente, le cerveau compensait comme il pouvait, mais à un moment donné, ce cerveau qui déjà se bat contre ces protéines anormales doit en plus surmonter un état de stress intense. Et là, c'est trop. Il ne peut plus et les symptômes apparaissent. Donc, ce n'est pas Le deuil, par exemple, qui déclenche la maladie d'Alzheimer, elle était sous-jacente, mais il révèle une maladie existante. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que aujourd'hui, la recherche qui est menée dans le monde, et en France en particulier, c'est une course contre la montre pour obtenir deux choses. Un traitement précoce, et évidemment, qui dit traitement précoce, dit diagnostic précoce. Parce que si on a un traitement précoce, mais qu'on ne peut pas diagnostiquer, ça ne sert à rien. Et vice-versa. Donc on mène de front deux recherches qui sont toutes les deux indispensables. Elles ne sont pas suffisantes, elles sont complémentaires. Le diagnostic précoce, la recherche précoce, le traitement précoce, parce qu'on veut pouvoir donner le traitement dans la phase préclinique, la phase où le cerveau est encore capable de lutter et il n'y a pas trop de dommages dans le cortex. D'accord ? Donc, ceci étant dit, voilà. Donc, aujourd'hui, l'actualité de la recherche, elle porte justement sur le diagnostic précoce, ce sont les biomarqueurs, et le traitement précoce, ce sont les premiers médicaments disease modifying. C'est évidemment un anglicisme, enfin, c'est un terme anglais pour dire des médicaments qui agissent sur le cours de la maladie, qui agissent directement sur la maladie. D'accord ? Donc, on va commencer par la révolution des biomarqueurs. Alors, aujourd'hui, nous sommes capables de repérer la maladie d'Alzheimer à un stade prodromal, un stade clinique et éventuellement un stade préclinique. Au stade prodromal et au stade clinique, on a essentiellement le diagnostic qui est porté par le clinicien qui va vous faire un bilan de mémoire très approfondi, ça va durer 2 heures à peu près, un IRM cérébral qui va permettre de voir un peu où en sont les structures cérébrales, notamment les fameux hippocampes, et puis l'épaisseur du cortex. Et puis, ensuite, on va aller un petit peu plus loin s'il le faut, si on a un doute, si malgré l'entretien et ces deux premiers examens, on n'est pas très sûr, on peut aller jusqu'à la ponction lombaire. Enfin, ce n'est pas un examen anodin, comme vous doutez, même si ça se fait maintenant de façon assez peu douloureuse. La ponction lombaire va permettre de repérer donc dans le liquide céphalo-rachidien, hein, qui serait liquide qui part de la colonne vertébrale et puis qui est dans tout le cerveau, à l'extérieur et à l'intérieur, donc il baigne le cortex. Donc il y a, si vous voulez, des molécules qui sont échangées et on va les regarder, le taux de protéines tau et de protéines bêta-amyloïdes. Et puis on va voir un petit peu comment elle est répartie. Et en fonction de la répartition, on peut vous dire, eh bien, on est quasiment certain que vous avez Alzheimer ou non, on a un doute. Donc avec ces examens-là, on arrive à peu près à 95-98% de certitude de diagnostic. On peut aussi compléter avec d'autres examens beaucoup plus complexes et qui relèvent quand même essentiellement de la recherche, qui sont des neuroligands, c'est-à-dire que ce sont des petites molécules qui ont la particularité d'aller se lier sur la protéine bêta-amyloïde ou qui vont aller se lier sur la protéine tau. Elles sont très légèrement radioactives. Alors, on vous injecte ces petites molécules, on attend un petit peu, on vous fait passer dans un scanner ou un IRM qui lui donne la cartographie du cerveau et sur cette cartographie du cerveau, on plaque la radioactivité. Quand il y a beaucoup de radioactivité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de cette molécule fixée sur les fameuses protéines anormales comme la protéine tau ou la protéine bêta-amyloïde. Et on a une cartographie du cerveau en fonction justement de la répartition de ces protéines. Là, vous voyez, pour la protéine bêta-amyloïde, vous avez là le patient, le malade, vous voyez, c'est très rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de protéines bêta-amyloïde. Et le contrôle, vous voyez, c'est plutôt jaune et vert, ça veut dire qu'il y en a très peu. Donc ça nous permet de savoir un peu où en sont ces molécules. Est-ce que la personne est porteuse d'une charge importante de ces protéines anormales ou pas ? Nous avons, avec la Fondation, financé un programme de recherche à la Pitié-Salpêtrière. On a suivi pendant des années des gens qui étaient des gens normaux, qui n'avaient pas de plainte cognitive, qui avaient 70 ans. Et on leur a dit, écoutez, vous rentrez dans le protocole, à condition qu'on vous mette dans cette machine un PET IRM, on vous fait tous les ans une image, mais on ne vous dit pas ce qu'on a trouvé. On ne veut pas vous faire peur. Et puis on vous fait des tests régulièrement, etc. Et on veut voir comment, eh bien, est-ce qu'il y a des corrélations entre la densité de ces protéines dans le cerveau et l'apparition ou non des symptômes par la suite. Eh bien, les résultats montrent qu'il n'y a pas de corrélation immédiate. Il y en a probablement, mais elle reste à déterminer. C'est la raison pour laquelle souvent les gens me demandent « Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans ces machines ?» Je dis non, parce qu'on vous dira peut-être que vous avez beaucoup de protéines bêta-amyloïdes, mais on sera incapable de vous dire si c'est grave ou pas. Enfin, on vous dira que c'est un petit peu ennuyeux, mais on ne pourra en aucun cas vous dire que vous allez déclencher la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un élément, mais qui ne permet pas de prédire avec certitude. Donc ça nous intéresse moyennement. Alors, on a cherché à aller un petit peu plus loin. Et là, on s'est intéressé eh bien, à cette protéine bêta-amyloïde, à cette protéine tau. Et vous voyez que c'est la démonstration de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous comprenez, là, vous avez un schéma où là, vous avez le temps qui se déroule avec les fameuses phases. Donc la phase où la maladie est installée, la démence. Là, c'est la phase dite prodromale. Les Américains appellent ça mild cognitive impairment. Donc c'est des petits déclins cognitifs modérés. Et la phase préclinique. Et vous voyez, on voit très bien sur cette image que eh bien, pendant la phase préclinique, on a une augmentation très progressive de la charge en bêta-amyloïde. Vous voyez, une augmentation également, mais plus tardive, de la charge en tau. On voit que l'atrophie cérébrale, qui est visible à l'IRM, vous voyez là, on a une très belle image en IRM, un cerveau normal, et là, un cerveau d'une personne avec la maladie d'Alzheimer. Et là-haut, là, vous voyez, c'est là que se situent justement les fameux hippocampes, vous voyez, qui sont complètement réduits. Il y a une atrophie très importante. Là, vous voyez, ils sont bien charnus, ils fonctionnent, et là, ils sont tout petits, très réduits. Une personne qui a des hippocampes très, très réduites a de très sérieux problèmes de mémoire et probablement est en train de développer une maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez que l'atrophie cérébrale, elle arrive quand même longtemps après. Et puis après, on a la détérioration clinique qui, vous voyez, là, il ne se passe rien et c'est là où on commence à voir apparaître les premiers symptômes et là, ça devient de plus en plus clair. Vous voyez, ce schéma montre bien ce qui se passe. Et donc, cette période-là, du normal à là, avec une prévention bien faite, on peut l'étendre dans le temps. On peut l'allonger. On estime aujourd'hui, les études le montrent, que si on a une attitude préventive efficace, on peut diminuer le risque d'Alzheimer de 30%. C'est un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Vous voyez, il y avait à peu près 60-70% de génétique et 30% qui est autre chose. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais si on fait ce qu'il faut pour maintenir le cerveau en bon état, il y a des bouquins. Nous, on est en train d'écrire un livre sur la prévention, justement, qui sortira dans 6 mois, 1 an. Eh bien, si on fait ça, on se donne les chances. Parce que qu'est-ce qui se passe? On aura peut-être la maladie d'Alzheimer. Mais cette période-là, ça va s'étendre. Et la maladie commencera peut-être là. Et entre-temps, on sera peut-être mort. Ah ben oui. Eh oui, mais on n'aura pas eu la maladie d'Alzheimer. D'accord? On finira tous par mourir un jour. D'accord? Donc si on repousse de 5, 10, 15 ans, on est tranquille. C'est pas mal. Donc c'est ça, si vous voulez. C'est là-dessus que on travaille également. La prévention, il y a des choses, mais ce qui nous ennuie beaucoup... Alors, attendez, excusez-moi, je reviens un peu en arrière pour vous expliquer. Alors, les biomarqueurs, l'intérêt des biomarqueurs, c'est de pouvoir trouver des méthodes qui permettent de repérer facilement et avec une quasi-certitude les gens qui se trouvent là, entre là et là. Ces gens-là, on veut pouvoir repérer assez facilement ces gens-là avec des examens simple. D'accord ? Quand vous avez une hépatite virale, vous êtes peut-être un jaune comme un coin et vous êtes vraiment pas en forme, d'accord ? Mais ce qui fait le diagnostic, c'est qu'on va vous prélever dans le sang, et puis on va vous prélever un peu de sang, puis on va tout de suite voir si vous avez des anticorps ou pas contre l'hépatite ABCD. Et on vous dit, vous avez l'hépatite. On veut pouvoir faire la même chose avec la maladie d'Alzheimer. On veut pouvoir faire un prélèvement sanguin, ou éventuellement de salive, ou ailleurs, j'en sais rien, et pouvoir dire, vous êtes à très haut risque de développer une maladie d'Alzheimer, on va s'occuper de vous. Et on va vous proposer peut-être un traitement, ou autre chose, ou on va vous proposer d'aller dans la fameuse machine pour le fameux PET-IRM ou un PET scan pour repérer si vous avez des lésions, déjà des dépôts protéiques, etc. On va vous suivre de très près. Donc, il n'est pas impossible, comme aujourd'hui, à 65 ans, on fait la révision des 65 000, où les messieurs, on leur fait le PSA pour la prostate, les dames, on leur fait une mammographie, etc. Eh bien, dans la révision des 65 000, on vous proposera un petit bilan prédictif de la maladie d'Alzheimer. C'est ça que nous cherchons à faire, c'est vers ça que nous tendons. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis, on va dire, quelques années, on commence à se rapprocher. On commence à toucher du doigt quelques résultats tangibles. Sachez qu'on est dans un ordre de grandeur qui s'apparente à aller chercher l'équivalent du volume d'un dé à coudre d'un produit dans une piscine olympique. Ça vous dit un peu la complexité. D'accord ? Et il faut non seulement trouver ce produit, mais en plus, ne pas se tromper. Parce qu'on ne peut pas annoncer à quelqu'un qu'il va avoir une maladie d'Alzheimer dans 10 ans si ce n'est pas vrai. Parce qu'il risque d'être un peu stressé. Sans raison. Donc, on ne veut pas se tromper. D'accord ? Donc, ça, ce sont les fameux biomarqueurs. Et les choses sont en train d'avancer de manière très intéressante dans ce domaine. Et puis, on a également donc, les fameux médicaments. Les fameux médicaments qui sont disease modifying. Alors vous voyez là, ce schéma-là, il montre tous les médicaments qui aujourd'hui sont en essai clinique ou avant dans le monde. Vous voyez, il y en a quand même un paquet. Combien il y en a ? Il annonce 143. Donc on ne chôme pas, mais ce n'est pas assez. En réalité, ce qui nous intéresse, c'est ceux-là. Disease modifying. Parce qu'il y en a d'autres, mais ceux-là, ils agissent plus sur le symptôme. Du reste, il y en a qu'on connaît. Donepezil, c'est Aricept, vous voyez. Alors, Aricept, c'est celui qu'on donne aujourd'hui à toutes les personnes avec une maladie d'Alzheimer. Ça agit sur le symptôme, ça n'agit pas sur la cause. C'est comme si vous avez une angine et on vous donne du Doliprane parce que vous avez de la fièvre. Mais ça n'agit pas sur l'angine. Il faut donner des antibiotiques qui, elles, attaquent la bactérie. D'accord ? L'antibiotique, c'est vraiment un traitement disease modifying. Eh bien, pour le moment, on est juste capable de proposer du Doliprane, ce genre de choses. Et nous, ce qu'on veut, c'est proposer des choses beaucoup plus efficaces qui vont agir sur la cascade amyloïde. D'accord ? Donc, on en a dit un mot tout à l'heure, cette cascade amyloïde, eh bien, c'est un processus qui fait que à un moment donné, on fabrique cette protéine amyloïde qui elle-même va donner de la protéine tau, qui elle-même va entraîner la mort neuronale, qui entraîne un trouble cognitif. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir bloquer ce processus. Ce que l'on sait, c'est que cette cascade amyloïde, elle est quand même très complexe, elle est sous-tendue par plein de mécanismes qu'on essaie d'identifier. C'est la raison pour laquelle la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie qui est univoque, sauf quand elle est purement génétique. Elle est probablement multifactorielle avec des gènes qui interviennent à tous les niveaux. Ça agit peut-être sur les neurones, mais peut-être aussi des processus inflammatoires. Il y a peut-être des toxiques qui interviennent, qui viennent de l'environnement. On a remarqué, par exemple, que les gens qui vivent dans des environnements très pollués ont plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. On a identifié ça avec des populations qui vivaient en bordure des périphériques. Ils étaient plus touchés. Est-ce que c'est à cause des choses qu'ils inhalent, qui agissent directement sur le cerveau? Est-ce que c'est parce que ça altère le réseau vasculaire qui lui-même perturbe le cerveau? On n'en sait rien, mais il se passe des choses. Nous, nous avons financé une étude à Grenoble d'un monsieur qui s'appelait monsieur professeur Bonneterre. Il a un nom prédestiné, il travaille sur le monde rural et il a identifié le fait que dans le milieu des viticulteurs, le risque de développer une maladie d'Alzheimer est supérieur à la moyenne. Pourquoi ? On ne sait pas, mais on pense qu'il y a quand même un lien avec les pesticides ou les choses comme ça qui sont utilisées, qui étaient utilisées par les viticulteurs. Donc, il y a des phénomènes externes qui interviennent et qui peuvent donc jouer, vous voyez ces phénomènes-là, ils jouent probablement là-dessus, ils jouent peut-être un peu là-dessus, on ne sait pas trop. C'est encore assez complexe. Et donc, ce que l'on cherche à faire, c'est essayer d'agir à ce niveau-là, comme je vous le disais. Vous voyez, on essaie d'agir avant, pour proposer des molécules qui permettent de bloquer l'évolution de la maladie avant d'arriver dans la phase dite prodromale préclinique. Pas préclinique, prodromale, pardon. Vous voyez, et si on arrive à bloquer, voilà ce qui risque de se produire, c'est que la charge en bêta-amyloïde baisse et on arrive à maintenir. Alors aujourd'hui, on a des médicaments qui sont proposés et celui qui nous intéresse aujourd'hui et qu'on regarde de très très près, et ça a été vraiment pour nous une très bonne nouvelle qu'on attendait depuis une vingtaine d'années, depuis 20 ans que je porte cette fondation, pour essayer de convaincre nos donateurs, on leur dit, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir, on va trouver. Mais on disait ça, mais au fond de nous, on était un petit peu dans l'imprécation. Mais là, aujourd'hui, je vous dis non, on n'est plus là-dedans, on est vraiment dans quelque chose de réel. Il y a une lumière au bout du couloir. Et la lumière, elle s'est allumée. Alors, elle est encore assez lointaine, mais elle est là. Et entre autres, la lumière, c'est ce produit-là. Lecanemab, qui a été accepté par la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'équivalent de l'organisation américaine qui contrôle les médicaments, et qui a validé cette molécule, et elle est en vente dans les pharmacies. Et donc, aux États-Unis, vous pouvez acheter lecanemab si vous avez une maladie d'Alzheimer débutante, que vous êtes en bonne santé et que vous êtes prêt à prendre le risque. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on ne maîtrise pas encore très bien les effets secondaires. Certains sont dangereux. Œdème cérébral, hémorragie cérébrale. Donc, il faut savoir pourquoi on le prend. Mais parfois, c'est mieux que d'attendre un déclin inexorable. Donc, ça, c'est une nouvelle qui est très intéressante. Le produit est le premier d'une lignée, il y en a eu un autre avant, mais qui a été un peu retiré du marché, mais celui-là, c'est le premier d'une lignée. Donc évidemment, comme c'est le premier, il n'est pas parfait, mais il est clair qu'il va être suivi de beaucoup d'autres, qui chaque fois vont améliorer un peu les choses, vont faire qu'on va être plus efficace, on va pouvoir nettoyer le cerveau davantage, sans effet secondaire. Et si on couple ça avec le diagnostic précoce, il n'est pas du tout impossible que d'ici, 10-15 ans, pour Alzheimer, on ait des traitements préventifs à proposer avant le traitement curatif. Parce que la cascade d'erreurs, la cascade amyloïde, dont on a parlé tous les deux depuis tout à l'heure, le problème, c'est que on sait que B devient C, C devient D, D devient etc. Mais on ne sait pas pourquoi A devient B. On ne sait pas qu'est-ce qui déclenche la maladie d'Alzheimer. Ça a été dit, on ne sait pas, on ne connaît pas aujourd'hui les facteurs qui déclenchent un Alzheimer chez les gens. Donc le jour où on aura identifié ces facteurs, on pourra vraiment agir dessus. Mais aujourd'hui, on ne sait pas. Donc on agit après, la maladie est installée, mais on la bloque. On la bloque. Comme on, toute proportion gardée, on bloque l'évolution du Parkinson. Aujourd'hui, avec une maladie de Parkinson, on peut vivre des années et des années. Il y a 30-40 ans, l'espérance de vie n'avait rien à voir, et la qualité de vie non plus. On est capable de freiner très considérablement la maladie de Parkinson. J'espère qu'on pourra, pour Alzheimer, avoir les mêmes résultats dans un horizon de 10 à 15 ans. Alors, bon, je suis un peu long, d'accord, j'ai compris. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste, conclusion, bon, le Lecanemab, ok. Et où est-ce qu'on en est? Voilà. On sait qu'il faut traiter tôt. On a des marqueurs précoces. La piste amyloïde a été confirmée, hein, aussi bien par la recherche génétique que par ces médicaments. Le Lecanemab a été enregistré en juillet 2023. Vous voyez, ça, c'est intéressant. Mais il faut qu'on continue à comprendre comment ça marche exactement. Et puis, on va vers une médecine personnalisée, une médecine dite de précision. Ce que nous voyons maintenant de plus en plus avec le cancer. Je reviens au cancer, les comparaisons sont intéressantes. Le cancer, il a fallu 80 ans pour en arriver là, avec un effort considérable mené par tout le monde, à tous les échelons. Je suis sûr que vous avez tous donné pour le cancer un jour dans votre vie. Mais tant mieux! Grâce à ça, on a maintenant des traitements très efficaces et qui sont de plus en plus personnalisés. Hein, une personne a un cancer du poumon, eh bien, on a des traitements à lui proposer, mais ils ne vont pas forcément marcher sur tout le monde. Donc, on va analyser le sous-groupe. Pour Alzheimer, à terme, on va se rendre compte que dans cette population énorme, 1,2 million personnes, il y a des tas de variantes. Et peut-être qu'à terme, on proposera des traitements spécifiques en fonction peut-être justement de la génétique de ces gens-là, de l'évolution de leur maladie, des facteurs de risque associés, etc. Et on arrivera à une médecine personnalisée qui permettra, j'espère, comme pour le cancer, on pourra dire un jour, j'ai eu la maladie d'Alzheimer. Voilà, merci de votre attention.